Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après toutes les belles choses que nous avons vues sur la création de l'homme et les qualités, les privilèges même que Dieu lui a communiqués, vient malheureusement le récit du péché originel. L'homme se révolte. Il y a déjà beaucoup de choses que vous savez sur ce sujet. J'ai déjà traité des blessures qui sont la conséquence du péché originel dans un sermon dont je vais vous mettre la référence. Vous avez également un très beau sermon de Mgr Lefebvre sur l'annonce de la rédemption. Je vous en parlerai peut-être dans un autre sermon, mais aujourd'hui, je vais prendre les paroles de Saint Jean Chrysostome. Vous croyez peut-être que nous n'avons plus rien à dire sur la domination, c'est-à-dire la royauté de l'homme. Mais moi, je vois encore un fruit précieux à recueillir. Ne vous fatiguez pas, je vous en prie, laissez-moi le temps d'achever ma vendange. Ne vous en allez pas avant d'avoir tout cueilli, considérez surtout que la peine est pour moi, le fruit pour vous. Quel va être le thème, le résumé, on peut dire, de ce sermon? Le voici. Ce n'est pas Dieu qui a privé l'homme de sa royauté, mais l'homme qui s'en est déchu par sa désobéissance. Toutefois, Dieu ne l'en a pas privé totalement. De plus, et surtout, Dieu veut la lui restaurer, cette royauté, et il veut ainsi la lui rendre plus parfaite par Jésus-Christ. Donc, premier point de ce sermon, l'homme n'est pas déchu de sa royauté naturelle, mais celle-ci est blessée. Que cela signifie-t-il? Est naturel ce qui appartient à l'homme parce qu'il est homme. Est surnaturel les dons gratuits qui ne sont pas dus à l'homme. Les dons naturels rendent l'homme semblable à Dieu créateur. Les dons surnaturels rendent l'homme semblable à Dieu Trinité. Et même plus que semblable, puisque les dons surnaturels permettent à l'homme d'entrer dans l'éternité bienheureuse de Dieu, ce que la simple nature ne peut absolument pas mériter lorsqu'elle est toute seule. Nous avons vu que lorsque Dieu créa l'homme, en le créant à sa ressemblance, il le crée roi. Puisque la plus grande ressemblance qu'une créature peut avoir avec Dieu, c'est non seulement d'avoir une certaine perfection, mais de pouvoir transmettre cette perfection sous l'influence de Dieu, bien entendu. Or, l'homme n'est pas déchu de sa royauté naturelle, de même qu'il n'est pas déchu de sa nature, c'est-à-dire qu'il continue à être homme. L'homme blessé après le péché originel demeure pleinement homme. Oui, je sais, il est important de prêcher sur les blessures, et Mgr Lefebvre nous recommandait souvent de le faire, mais on ne peut pas prêcher précisément sur l'état de l'homme après la chute originelle sans rappeler tout ce que la théologie nous rappelle. Et il est important, très important, de savoir qu'un homme, même blessé, reste un homme. Et donc, un homme blessé par le péché conserve sa royauté naturelle. C'est ce qui explique pourquoi il reste une rectitude même après le péché, par exemple dans l'éducation des enfants. Si l'homme avait perdu toute autorité par le péché, dès la deuxième génération d'enfants, on n'aurait eu que des voyous qui se seraient entretués et l'humanité n'aurait pas survécu plus de deux ou trois générations. Si la mère avait perdu toute autorité du fait du péché originel, nous n'aurions pas tous ces témoignages nombreux, très nombreux, d'hommes qui déclarent tant de voir à leur mère, y compris d'hommes païens. Si la mère avait perdu toute autorité du fait du péché, nous n'aurions pas des mourants si nombreux qui réclament leur mère au moment de leur mort. Les témoignages en sont multiples, notamment lors de la guerre de 14-18. Lorsque dans 21 ans chez les Papous, livre du père Dupéra dont je vous recommande très vivement la lecture, un homme croit que sa femme l'a trompé et il coupe le petit pagne qui entoure la ceinture de cette femme, ce qui fait que sa femme, qui déjà n'était pas très habillée parce que les femmes papoues n'avaient que ce petit pagne, cette femme se trouve là absolument toute nue. Elle s'estime déshonorée, elle grimpe en haut d'un cocotier, d'un grand arbre, elle se jette du haut de l'arbre et se suicide. Pourquoi ? Parce qu'elle est consciente de sa dignité, elle était innocente, elle ne l'avait pas trompée. Donc elle est consciente de sa dignité de femme, de sa dignité de mère, et elle ne supporte pas que l'on bafoue cette dignité. Pourtant c'est une païenne. Je ne vous dis pas que le moyen pour faire respecter sa dignité était le bon, ça c'est une autre affaire, parce que justement le péché est passé par là et que l'homme est blessé, je vous l'ai dit. S'il n'y avait plus eu d'autorité humaine après le péché, nous n'aurions pas eu les magnifiques cités grecques, ni la Rome antique, qui fut durant de nombreux siècles un modèle de gouvernement. Et saint Jean Chrysostome a de belles remarques sur le fait que si l'homme ne domine plus les animaux comme au paradis terrestre, cependant Dieu ne l'a pas privé de sa domination sur les animaux domestiques qui le servent, les bœufs, les chevaux, etc. Cependant, il faut bien le reconnaître, cette royauté est blessée, d'abord en elle-même, parce que les pères païens sont la plupart du temps moins respectables que les saints chrétiens, et surtout parce qu'elle n'est plus tournée vers la fin surnaturelle, le royaume de Dieu ici-bas, le royaume de Dieu dans l'éternité. Un père grec ou un père latin qui éduque ses enfants le plus parfaitement possible dans la justice et dans ce qu'il y a de plus noble, ne le guide cependant pas vers le ciel. Si l'enfant grec ou l'enfant latin se sauve, car il y en eut qui se sauvèrent, ce fut par une grâce spéciale de Dieu, donnée directement. Pour cela, il faut revoir mon sermon sur le baptême de désir et le baptême dans la grâce du Saint-Esprit. Ce serait donc une erreur, et donc une erreur grave, que de croire que, après le péché, l'homme a perdu toute autorité, voire même toute dignité. L'Église a condamné cette erreur sévèrement, parce que sinon il n'y a plus rien qui tienne. Deuxième partie du sermon, si l'homme est privé de sa royauté, c'est par sa propre faute. Si Adam a perdu sa royauté, c'est parce que lui-même s'est dégénéré. La désobéissance d'Adam et Ève a blessé leur descendance, comme l'ivrognerie d'un père blesse la morale de toute la famille. Mais saint Jean Chrysostome insiste pour dire que l'essentiel de nos blessures et de notre perte d'autorité à nous vient de nos propres péchés. Lorsque beaucoup de caciques du Pérou, du peuple Inca du Pérou, abusent de leur autorité au point d'être des tyrans, on peut dire, sanguinaires, voleurs, il suffisait qu'un cacique condamne un Indien à mort, et très souvent il le condamnait à mort parce que l'Indien n'avait pas voulu céder aux caprices du cacique, pour que l'Indien en question demande à l'un de ses congénères, un autre Indien, de l'exécuter. Tellement l'autorité du cacique était forte. Il s'agit là, évidemment, d'une autorité complètement dégénérée. Et d'où cela vient-il ? De multiples péchés accumulés dans ce peuple. Pas dans tous les peuples, hein. Faut pas généraliser. Application pratique. À nous aussi, le péché nous fait perdre notre autorité. Léon XIV veut rétablir la paix dans le monde. Et il demande pour cela à toutes les religions, comme il dit, comme s'il pouvait y avoir plusieurs religions, plusieurs dieux et plusieurs sauveurs et plusieurs Christ et plusieurs croix. Mais toutes les religions, ce sont surtout aujourd'hui des religions, comme il dit, identiques à celles des Incas. Appeler toutes les religions à sauver la paix, c'est appeler les caciques Incas à sauver la paix. Rien que cela devrait lui ouvrir les yeux. Mais il est aveuglé. Mais je ne veux pas m'étendre car je veux arriver à la troisième partie du sermon qui est très belle. Nous venons de voir que c'est le vice et le péché qui privent l'homme de sa royauté. Par conséquent, la vertu va la lui rendre. Or, cette vertu ne vient pas toute seule. Elle vient par la grâce de Dieu. Elle vient par le Christ, puisque la grâce désormais nous est donnée par le Christ, par la croix. Et, par conséquent, cette vertu qui nous rend semblables à Jésus-Christ et à Jésus crucifié, va donner aux chrétiens une autorité semblable à celle du Christ et du Christ crucifié, du Christ roi. C'est-à-dire que, par la rédemption, le Christ non seulement rend à l'homme sa royauté, mais il la rend plus parfaite, plus élevée, et saint Jean Chrysostome insiste beaucoup sur cette vérité. Il cite par exemple le cas de Daniel avec ses compagnons dans l'Ancien Testament qui sont jetés par le roi Nabucodonosor dans une grande fournaise ardente qui leur sera épargnée s'ils acceptent d'honorer les dieux, les idoles de Nabucodonosor. Daniel répond avec une noblesse, une autorité telle qu'on voit bien que sur ce point, il traite l'empereur Nabucodonosor en inférieur. Il en va de même de nombreuses réponses de martyrs aux empereurs romains, réponses qui manifestent une autorité quasi divine chez les martyrs qui s'adressent à l'empereur. C'est d'ailleurs une des choses qui met les empereurs en fureur. Ils accepteraient bien qu'il y ait un dieu chrétien au milieu de tout le panthéon romain. Ils ne peuvent accepter qu'il y ait un Christ roi, surtout si ce roi communique sa propre royauté à ses sujets, les chrétiens. Vous constatez également une autorité de Mgr Lefebvre devant le pape, un très grand respect du pape qui représente notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, ce qui ne l'empêche pas de lui répondre avec autorité, parce que, s'appuyant sur la foi, il sait que la foi est supérieure au pape, que l'autorité de la foi est supérieure à l'autorité du pape, et que l'autorité de celui qui parle avec la foi est supérieure à l'autorité d'un pape qui déraille. Il dit même qu'un enfant de 4 ans qui connaît bien son catéchisme pourrait répondre et accuser un évêque qui, par exemple, nierait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Lorsque saint Paul s'adresse à saint Pierre lors de la controverse sur l'attitude à tenir envers les Juifs qui se sont convertis, saint Paul parle avec autorité. Lorsqu'il dit « Si un ange venu du ciel osait dire le contraire de ce que je vous affirme, ne le croyez pas », saint Paul parle avec autorité, conscient de l'autorité qui lui vient de Dieu. Pourquoi donc ai-je voulu poursuivre la vendange avec saint Jean Chrysostome? C'est parce que il est absolument nécessaire, mes bien chers frères, je tiens à vous le rappeler, que vous soyez conscients de l'autorité chrétienne que donne la vertu, surtout la vertu de foi, mais également la vertu de justice chrétienne. Il faut que vous en soyez conscients, mes bien chers frères, il faut que vous n'acceptiez pas qu'elle soit diminuée, rabrouée. Qu'on vous empêche de l'exercer est une chose, mais que vous acceptiez vous-même d'humilier votre autorité, ça n'est pas permis. Quels que soient les avantages que vous en attendez, aucun avantage ne peut justifier qu'on diminue, qu'on méprise l'autorité qui nous vient de Dieu, notre autorité qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Christ, qui a été payée du sang du Christ sur la croix. Parce que si on fait cela, de mépriser sa propre autorité, alors on détruit tout. Même les avantages que nous en attendons, que nous en espérons, n'ont plus aucune valeur. Lorsque les prétendus missionnaires anglicans en Papouasie proposent aux missionnaires catholiques de partager le pays en deux, une partie sera laissée aux catholiques, à condition que ceux-ci laissent les protestants libres dans leur propre partie. Les missionnaires auraient pu dire « Ah, au moins cela nous permet de convertir la moitié du peuple papou, c'est toujours mieux que rien. » Mais non, ils se récrient. Ils disent « Nous n'avons pas le droit de bafouer l'autorité du Sauveur des hommes, il est le roi de tous et nous n'avons pas le droit de vous abandonner la moitié de ce peuple. » Comme les protestants disent « Puisque c'est que ça, partez », eh bien les missionnaires s'enfoncent dans les montagnes, quittent la plaine que se réservent les protestants, ils s'enfoncent dans les montagnes, et ils vont établir cette magnifique chrétienté papou qui, malheureusement, sera détruite par l'action conjuguée du modernisme, de Vatican II et de l'ONU. L'autorité d'un père de famille qui, à la fois, est supérieure à celle déchue d'un évêque qui agit contre la foi, et voilà pourquoi, aujourd'hui, il revient aux pères de famille qui ont la foi, pas n'importe quel père de famille, mais aux pères de famille qui ont la foi, de choisir l'évêque qui est conforme à la foi et de fuir les évêques qui n'y sont pas conformes. Il y a enfin une autorité que je réserve pour la fin tellement elle est belle, c'est l'autorité de ceux qui servent Dieu, l'autorité de tous ceux qui ont servi Dieu dans l'humilité, l'autorité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand j'ai dit l'autorité, je devrais plutôt dire la royauté. Nous verrons au ciel une multitude d'humbles religieux, d'humbles mères de famille, d'humbles pères de famille. Saint Jean Chrysostome va même jusqu'à dire une multitude d'humbles esclaves de la période romaine qui se seront comportés en véritables rois, fiers de la royauté de Jésus-Christ et qui régneront avec lui aux cieux, à des places bien plus élevées que beaucoup de rois de la terre. C'est cela que Dieu veut, que les crises actuelles, les difficultés, les épreuves actuelles de l'Église et de toute la société mettent en valeur cette magnifique royauté chrétienne qu'il a communiquée à ses amis face à tous les abus d'autorité des serviteurs du démon. C'est pourquoi, mes bien chers frères, je vous en supplie, ne vous plaignez pas de toutes les misères et de toutes les injustices que vous avez à subir de la part de tant et tant d'hommes qui détiennent le pouvoir, qui devraient détenir l'autorité. Ne vous abaissez pas à cela et conservez un comportement royal de ceux qui sont au-dessus de tout cela, parce qu'ils savent qu'ils règnent déjà avec Jésus-Christ et avec la très sainte Vierge, reine de tous les anges et les saints. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.